vin et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices. Nous revenons au Pinard, après avoir fait un petit détour par la bière sur un PVC, un Polar Veil Company un peu déglingué. Voilà, donc là, on est sur la série qu'on a entamée une première fois avec Olivier Bordassard, consacrée aux romans qui seront, qui sont candidats, qui sont en lice pour le prix Robin Cook. Je suis aujourd'hui accompagné par la toujours souriante Sylvie.
Et bonjour.
Le séduisant Didier.
Bonjour,
et
merci.
Et notre lectrice désormais attitrée, Michel.
Bonjour.
Voilà, comme je le disais, toutes les fins de mois, le numéro de Polar Veil Company sera consacré au prix Robin Cook avec la présentation successive des romans en lice pour ce prix. Aujourd'hui, c'est autour de la théorie des ondes de Pascal Chouffaut. Mais avant d'entrer dans le carnaval de Chalon-sur-Saône, où nous amène Pascal Chouffaut, Didier, tu nous entraînes sur une côte d'azur bleue comme l'enfer, le titre d'un polar de Philippe Djian, adapté au cinéma par Yves Boisset, peut-être un clin d'œil de Akaki Popkadze.
Ouais, j'espère pour vous. En tout cas, manifestement, c'est un livre qui vous avait marqué, peut-être même plus que le film. Bon, ben, j'espère qu'on va être à la hauteur, hein, parce que pour son rendez-vous habituel pour vous, enfin en tout cas je l'espère, Cap Polar Sud Aveyron vous propose le jeudi 6 mars à 20h30 un film, Brûle le sang, un film de fin 2024 que notre cinéma de Millau, notre cher cinéma, n'avait pas pu projeter à sa sortie. Donc c'est un film d'Akaki Popkadze, je crois que c'est son second film. Que se passe-t-il dans ce film? Eh bien écoutez, c'est un polar, vous allez voir. Sous le soleil cuisant d'une côte d'azur bleue comme l'enfer, on l'avait vu venir, hein, un pilier de la communauté géorgienne est assassiné. Une moto, deux hommes casqués, une balle dans la tête et l'homme s'écroule à la terrasse d'un café. Un grand classique, hein, en oui. fait. Hein. On le voit, on l'imagine. La séquence, sèche comme un coup de trique, est digne des meilleurs films de mafia américains. Le plus jeune fils du défunt, qui souhaite devenir prêtre orthodoxe, alors ça, c'est pas, j'allais dire, c'est facile comme vanne, c'est pas orthodoxe du tout, se retrouve seul avec sa mère et ne crie pas vengeance. C'est sans compter sans le retour de son frère aîné, bien destiné, lui, à laver l'honneur de la famille. Pour ce faire, il renoue avec son ancien milieu, un pote aux narines cramées par la cocaïne et un parrain au calme flippant, joué par de grands acteurs, Denis Lavant, Nicolas Duvauchel et Finnegan Oldfield, entre autres, parce que j'ai bien regardé, il y en a d'autres très très intéressants. Donc attention, voilà un thriller qui ne ménage pas sa violence, ça on pourrait peut-être nous le reprocher, et révèle un jeune cinéaste, Akaki Popkadze, qui se nourrit, on le comprendra assez bien, du cinéma de Scorsese et du Little Odessa de James Gray, un film que j'adore. Et le tout avec un casting vraiment incandescent. Bon film ?
Ah, j'irai rien que pour Denis Lavant. Donc, Brûle le sang de Akaki Popkadze, ou Popkadze, le jeudi 6 mars. 20h30 au cinéma de Millau. On revient à la littérature avec Sylvie qui nous présente donc la théorie des ondes de Pascal Chouffaut.
Oui, alors ce titre, il est en compétition dans notre prix. Il est paru en 2024 aux éditions du Rouergue par Pascal Chouffaut. Donc, Pascal Chouffaut, elle est écrivaine. Elle a travaillé pour de nombreuses maisons d'édition et pour la presse. Et en 1996, elle a intégré le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Et elle a travaillé à l'écriture de pas mal de scénarios pour la télé. En 2008, elle publie son premier roman noir qui s'appelle Nitro. Et donc en 2024, La théorie des ondes, qui est son quatrième roman et que nous avons donc sélectionné. Alors, de quoi il s'agit dans cette théorie des ondes? L'héroïne, c'est Catherine Gauthier, qui est une ancienne flic. Et après une bavure, elle quitte la police et elle mène des enquêtes pour un avocat qui s'appelle Pierson. Le cadre est très intéressant dans ce livre. Le cadre, c'est Chalon-sur-Saône, on est en province. au moment du carnaval. Alors le carnaval avec tous ses rites, toutes ses habitudes, et puis la Saône avec ses ponts, ses eaux noires, et la Saône elle est en crue à ce moment-là. Donc on est implanté un décor et on est déjà dans un décor pas très engageant. L'intrigue elle est plutôt façon puzzle. Elle repose sur le meurtre d'une jeune fille retrouvée sur les berges justement en crue. Et ce meurtre, il va relancer des cold cases, ce qu'on appelle des cold cases, des affaires non résolues d'autres jeunes filles assassinées et dont les meurtres n'avaient pas été élucidés. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette intrigue à tiroir, elle va permettre à l'autrice d'exhumer le passé sombre de ces notables provinciaux et elle est liée aussi à une histoire plus ancienne. On remonte au début du siècle avec les colons du Morvan. C'était de jeunes orphelins qui étaient, au début du XXe siècle, exploités et livrés aux pires tourments, le tout dans un univers très glauque et très très sombre. Donc la petite histoire locale rattrape la grande histoire, un événement de la grande histoire, où tout le monde, alors dans un univers assez poisseux, ces villes de province où tous les notables se connaissent, les secrets de famille larvés qui cherchent à rejaillir, c'est un texte très tendu, où les ondes du passé conduisent à des répercussions aujourd'hui terribles. On va et on vient en fait entre le passé, mais ce qui est très très intéressant en fait, c'est la façon, c'est presque un livre sociologique, j'ai envie de dire, tellement au-delà de l'intrigue, les personnages, la mention spéciale pour les personnages, le traitement de ces personnages complexes, attachants, qui portent tous en eux ou un deuil ou une fêlure, ou qui sont rattrapés par l'histoire. Alors c'est à lire vraiment avec délectation, même s'il est assez consistant, le livre il se lit presque d'une traite tellement on est embarqué finalement par cette histoire et ces personnages. C'est sombre, voilà, c'est très sombre, mais c'est très bien. Et je remercie Pascal de nous l'avoir proposé.
Ben, merci Sylvie. Donc on s'est lancé la dernière fois à décrire la couverture du livre d'Olivier Bordassard. Donc là, on retrouve la bande noire spécifique à Rouergue noire. Et tu parlais du décor. Effectivement, ce décor, on le retrouve. On voit cette jeune femme un peu fantomatique, peut-être. Peut-être une des victimes, je ne sais pas.
Probablement. Hein, elle a une tenue assez austère pour une jeune fille. Elle est en bord de Saône, on suppose, effectivement. Et la couleur de la couverture, puisque c'est une photo très, très sombre, relève vraiment l'état d'esprit qu'il y a dans le livre. Moi, ce que j'ai aimé vraiment, c'est ce côté... provincial, poisseux, voilà, on pourrait être dans un film de Chabrol.
Eh bien, merci Sylvie. Qu'en pense l'inspecteur Dérif ?
L'interrogatoire de l'inspecteur Dérif.
À ta place, moi, je prierai pour que ça finisse vite.
Bonjour, vous êtes entendu aujourd'hui sous le statut de témoin, car on vous soupçonne d'avoir commis un roman noir, La théorie des ondes, avec la complicité des éditions Rouergue noire. Pour ce délit, et selon notre code pénal, la peine encourue est l'obtention du prix Robin Cook en juin 2025. Donc une fois déclinée votre identité, vous aurez le choix entre répondre à mes questions ou garder le silence. Est-ce que c'est clair pour vous ?
Très clair.
Très bien, nom, prénom, profession et lieu de résidence.
Nom Chouffaut, O-T, avec deux F s'il vous plaît, Pascal, avec un E, et date de naissance ?
Non merci. Profession, non, merci. Lieu de résidence.
Profession retraitée, c'est un très chouette boulot et on y est encore droit, donc profitons-en. Et lieu de résidence, Romainville, Montreuil, Seine-Saint-Denis, de manière plus générale. J'aime la Seine-Saint-Denis.
Très bien, j'ai noté. Quelles raisons vous ont poussé à commettre la théorie des ondes ?
Vieux projet que j'avais dans des cartons qui m'intriguaient, qu'il fallait que je ressorte par nécessité d'écrire, par nécessité de me remettre dans le... grand bain bouillonnant et plein d'encre noire du polar. C'était un texte en projet depuis des années et je n'avais pas eu le temps de le retravailler. Donc à un moment, je l'ai ressorti des cartons et je l'ai recreusé avec des points de vue peut-être un peu plus différents avec plus de maturité. En fait, à l'origine du projet, il y avait surtout ces histoires de disparition de jeunes filles à répétition dans une même région qui me travaillait un petit peu parce que des amis assez proches ont été confrontés à l'une de ces disparitions. Et ces affaires non résolues dans un périmètre, sur un territoire, donc, comme je le disais tout à l'heure, assez précis. Donc, la question m'intriguait, je me suis intéressée sur le pourquoi du comment et qu'est-ce qui faisait que cette région était, je dirais pas particulièrement touchée, si vous voulez, inspecteur, mais qu'est-ce qui faisait que autant de tueurs enterrés étaient passés par là, quand même. Ça, c'était très intriguant. Et puis, à la Saône, cette rivière assez mythique, qui passe par Châlons, et je m'y suis déplacée. Et j'ai eu l'occasion de passer quelques jours dans ce carnaval de Châlons qui est régi par des codes, donc c'est la confrérie des Goniaux, donc régi par des codes, il y a une hiérarchie assez étonnante là-dedans. Et la ville est réellement en liesse, et le long de la Saône, et c'est comme d'habitude, donc ça a lieu en février, avec cette Saône qui peut déborder par moments. Et puis, en commençant à creuser l'histoire de ces jeunes disparus, là-dessus, j'ai eu l'occasion de retourner à l'école en psychocriminologie et j'ai remis cette histoire sur le tapis et j'ai discuté avec de nombreux de vos collègues, chers inspecteurs des RIF, et qui, eux, étaient des spécialistes de ces cold cases. Et c'est des... En fait, on se rend compte, excusez-moi, je ne voulais pas vous tutoyer, chers inspecteurs des RIF, on se rend compte que ces types-là sont hantés par leurs affaires non résolues. À tel point qu'ils peuvent travailler même à côté, même quand ils ont changé de direction ou de département, ils continuent de creuser les pistes, de travailler, y compris en lien avec des psychologues, par exemple, pour essayer de travailler sur la psychologie, non seulement de la victime, mais également du tueur potentiel. Donc on a affaire à un vrai travail d'enquête, mais qui se situe beaucoup plus au niveau de l'humain. Et je me rappelle notamment un monsieur, je pense qu'il était gendarme, qui avait travaillé sur l'affaire du jardinier Omar, la fameuse affaire Omar Matuer, qui a été un pur scandale au niveau de la justice, l'affaire trop vite bouclée. Ça m'avait beaucoup marqué, par exemple, aussi dans les annales dans l'histoire de la police judiciaire. Et donc ce type-là, lui, était persuadé d'avoir trouvé... il avait continué à travailler... Après l'arrestation de ce pauvre monsieur Omar, en disant, il avait toujours réfuté l'hypothèse que ce soit Omar l'assassin, et il pensait qu'il avait trouvé le meurtrier de cette dame dans le sud profond, là, et que ce type s'était réfugié en Allemagne et était mort. Et il était parti, si tu veux, de la grammaire allemande. Donc là, c'était un mec passionnant à écouter, voilà.
Très bien. Maintenant, donnez-moi 4 ou 5 mots-clés qui résument votre roman, La théorie des ondes.
Alors, je dirais la monstruosité, la fureur, la vie et le deuil impossible.
Très bien. Et qui est votre personnage préféré dans ce roman ?
Je ne peux même pas dire que ce soit mon héroïne. Puisqu'elle est tellement, elle est atteinte d'un tel symptôme que j'en arrive à avoir tellement d'empathie, pour elle que je souffre avec elle de ne pas pouvoir souffrir. Je dirais que le personnage préféré de mon roman pourrait être la mère d'une des victimes.
Une mère précisément ou peu importe.
La maman de Juliette.
Mais alors, quel est le personnage que vous élimineriez sans aucun état d'âme ?
Il n'y a plus de roman, il n'y a plus de polar si on élimine le méchant. Ils sont tous importants, donc je n'en élimine aucun.
Vous êtes trop gentil, c'est louche.
Oui, c'est louche, hein. C'est louche. Alors attendez, je vais revenir sur la question. Quel personnage j'éliminerais bien ? Oh ! Le PDG de Kodak. Ça vous va comme réponse ?
Je le note. Alors, pour en finir, une question qui me taraude depuis un moment. Quel vin et quelle musique conseillez-vous pour accompagner la lecture de cette théorie des ondes ?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question, inspecteur des riches, parce que je vous ai espionné. Et donc, je vous conseille... un petit rosé qui s'appelle l'épineuil, qu'on ne trouve qu'à Épineuil. Il y a du rouge, mais il n'est pas bon. Par contre, choisissez un bon Épineuil, un rosé bien frais, et écoutez l'album Blasé d'Archichep avec Jamily.
Très bien. À ce stade de la procédure, nous vous retenons comme témoin et nous vous demandons de ne pas quitter le territoire jusqu'au mois de juin 2025. Vous êtes sous ORTF. Obligation de rester sur le territoire français.
My goodness, ok, j'ai plus de passeport.
Plus de passeport, vous pouvez rentrer chez vous à pied.
D'accord, bon, je vais remettre le stop à la bonne. Mais je vous remercie beaucoup, inspecteur des Riffs, et je vous souhaite une bonne conclusion d'enquête.
Nous verrons bien, et peut-être nous verrons-nous au mois de juin.
Je l'espère. Venir vous visiter en personne. Je souhaite ma garde à vue, ma mise en examen, plus exactement.
Très bien, je vous remercie. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous, inspecteur.
Je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire.
Eh bien si, nous on aime lire, surtout Michel, qui vient nous lire un extrait donc, de La théorie des ondes de Pascal Chouffaut, paru chez Rouergue Noir.
Des coups de sifflet transpercèrent la foule, saisis soudain d'un tremblement d'émoi. Le chef du premier char pétrifia ses troupes d'un geste, puis donna le signal du départ d'un rapide demi-tour pour prendre la tête du défilé. L'élu glissa son bras sous celui de sa camarade. Il ne les perdit pas de vue un seul instant. Crocheté par le fuchsia virevoltant et innocent des ravages qu'il causait dans son cœur. Il était le chien fidèle, ne sachant qu'aimer, traîné en laisse par la pureté même. Il était 16 heures, la foule plus dense que jamais, au lent écoulement stoppé net à chaque carrefour. Afin de ne pas se faire semer, il dut s'approcher d'elle jusqu'à pouvoir humer la sueur juvénile de ses cheveux. La vue des premiers manèges jeta l'élu contre la falette avec des gloussements de joie, des exclamations d'une peur si tendre qu'il se sentit au bord de défaillir. Chaque attraction fut alors l'objet d'un savant calcul, entre émerveillement, frisson, discussion animée sur les tarifs. L'une finissait toujours par obtenir de l'autre de s'enfoncer plus avant d'un manège au cœur de la fête. La nuit était venue, et avec elle, les odeurs se faisaient plus grasses, plus sucrées, plus écœurantes dans les allées bondées. Les derniers manèges étaient dressés tout au bout du cul-de-sac de la rue Colette, semés entre la rue du Parc et la lisière du Parc Georges Nouel. Là, elles firent une halte plus longue et il dut contenir une bouffée de rage. Plantées sur la coursive des autotamponneuses, serrées l'une contre l'autre, elles pouffaient, vacillant parfois sous les petits coups de coude dont elles se bourraient mutuellement les flancs. Leurs joues et leurs fronts avaient subitement rosi. Et la raison n'en était pas le froid. Mais le spectacle de grappes de garçons du même âge sur la coursive opposée, qui s'adonnait à un rituel identique, en plus brutal. Bousculade, éclats de rire, commentaires braillards, inaudibles. Le coup de trompe les fit se jeter sur la piste en criant, puis dans une auto. L'élu prit d'autorité le volant, ce qui lui plut. Elle avait du caractère. Elles quittèrent enfin le stand des autotamponneuses pour tomber en arrêt devant un autre qui débitait des churros au maître. Posté à quelques centimètres derrière elle, s'abreuvant du parfum unique de l'élu, il l'entendit gazouiller de dépit devant le prix des sucreries. Sans réfléchir, il s'accroupit tout en fouillant la poche intérieure de son blouson. Il se redressa avec un billet de 20 € froissé au bout des doigts. « C'est à vous ?» Les nymphettes interloquées ouvrirent la bouche. « Oui ? Non ? » insista-t-il, l'air parfaitement étonné. « Bien » continua-t-il, billet tendu devant leurs yeux. Cherchant autour de lui l'hypothétique propriétaire du billet. La poitrine de l'élu se souleva d'un coup. Regard apeuré fixé sur sa copine, elle débuta un nerveux. « Merci, si, si, c'est à nous, merci, monsieur !» saisit rapidement le billet et, empoignant l'osseuse fadette par le coude, lui fit faire demi-tour. Il était 17h30. Il leva la tête soudain, débordant de bonheur, cherchant à atteindre les étoiles, par-delà le brouillard luminescent inscrit sur le ciel neigeux par les projecteurs de dizaines de manèges. La nuit lui susurra qu'elle serait longue et protectrice. «
A flame that flickered one day, then died away. Now with this illusion deep in your eyes, you found that never thinking of tomorrow, nonchalant, dancing, dining, diamonds shining, with some man in a restaurant. Is it all you really want? No. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago, and when nobody is
C'était Archie Shepp dans Sophisticated Lady. Donc Archie Shepp au sax ténor, donc très free jazz. Hein. Archie Shepp accompagné ici par Dave Burrell au piano, par Philly Joe Jones à la batterie. La chanteuse était Jan Lee, Julio Finn à la harpe, Chicago Bo à la harpe et Lester Bowie à la trompette.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, c'est pas interdit que je sache.
Nous sommes avec Céline Côté. Bonjour Céline.
Bonjour.
Alors, Pascale Chouffeau, l'autrice de La théorie des ondes, nous a conseillé l'épineuil rosé pour mieux savourer et mieux apprécier son roman. Donc, voilà, l'épineuil, le tonnerrois, entre tonnerre et molome, tout ça, c'est des mots qui me sont, des noms en tout cas, qui me sont complètement inconnus. Vous nous resituez un petit peu le...
Alors, tonnerre, c'est dans l'Yonne, donc tout au nord de la Bourgogne. C'est vraiment le sud-sud du bassin parisien, en fait. Hein. Mais on est encore en Bourgogne, voilà. C'est ce qu'on appelle la basse Bourgogne.
La basse Bourgogne,
comme le Bas-Rhin, donc c'est le nord de la Bourgogne. C'est un vignoble très ancien, en fait, mais qui a connu un renouveau dans les années 80.
Alors, j'ai cru comprendre, j'ai regardé votre site, et j'ai cru comprendre que vous êtes parti faire des études à Paris.
Oui.
Vous êtes revenu.
Je suis revenue, ouais, après avoir travaillé à Bordeaux.
D'accord, toujours dans le vin alors.
J'ai fait mes études de viticole. C'est une deuxième carrière hein, pour moi. Donc après ma période parisienne, je suis allée étudier à Bordeaux parce que pour des raisons familiales, je me suis trouvée à Bordeaux à ce moment-là et je suis revenue reprendre 2 hectares qu'avait planté mon père dans les années 80.
D'accord, c'est un domaine familial.
Voilà, c'est une transmission, ouais, familiale, ouais. Mais on n'était pas vraiment vignerons à la génération de mon père. C'était plutôt des vigneronnes dans le milieu du 18e, 19e siècle.
Des vigneronnes, vous dites?
Oui, c'était beaucoup des femmes.
Ah oui.
Alors, aussi parce que, après-guerre, au 20e siècle, hein, après-guerre 14, il n'y avait plus beaucoup d'hommes dans la famille.
Ouais.
Et donc, c'est les femmes qui ont continué.
D'accord. Alors là, c'est vrai que vous êtes la première femme, donc vigneronne, que j'interviewe dans le cadre de cette émission. On en a fait bien plus d'une vingtaine d'émissions maintenant. Donc du coup, comme c'était une autrice, je trouvais pertinent effectivement aussi que ce soit une vigneronne. Ça tombait bien puisque vous produisez de l'épineuil rosé. Alors cet épineuil, c'est... On est toujours avec du pinot noir ou pas? Puisqu'on est dans la Bourgogne.
Bien sûr, ouais.
Ah oui, quand même.
Ici, alors épineuil, traditionnellement, c'était plutôt du pinot gris. Qu'on utilisait en cuvaison. Donc, on faisait cuver les pinot gris pour donner un petit peu de couleur. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de pinot gris sur l'épineuil, ce sont que des pinots noirs. Et donc, on fait beaucoup de rosés de pressurage direct ou de courte macération.
Alors, vous ne faites pas que du rosé, mais là, bon, effectivement, on va parler de celui-là. Je vous vois avec un magnifique cheval.
Oui, je travaille une partie du domaine, hein, pas la totalité, parce que malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps, avec une jument comtoise.
D'accord.
Parce que donc, je travaille en bio, en biodynamie, et donc j'ai le cheval amène aussi, c'est plus doux. Ça permet de prendre son temps aussi quand on travaille, et puis ça ne tasse pas les sols, donc c'est important pour la vie de sol.
Et alors, cet épineuil rosé, à quelle occasion peut-on le boire, hein?
Alors, l'épineuil rosé, on le sert facilement à l'apéritif, ça c'est sûr. Il faut savoir que c'est un vin qui se garde, contrairement à beaucoup de rosés qu'on conseille de boire dans les 2 premières années. Un épineuil rosé, vous pouvez le garder 10 années, ça vieillit très bien, parce que c'est des vins qui sont très frais, avec un petit peu d'acidité, et puis beaucoup des arômes un peu sous-bois, un peu terreux, qui vieillissent bien. Donc, moi, je conseille de le garder entre 4 et 10 ans, on peut. Et donc, c'est un peu un rosé gastronomique qu'on va pouvoir servir sur des escargots, sur des poissons. Ça va très bien sur les charcuteries. Mmh. Et donc, c'est un rosé qu'on peut servir l'hiver aussi. C'est pas forcément le rosé sur les salades et à l'apéritif.
Et alors, j'ai vu, donc ça, c'est peut-être pour encourager... Pascale Chouffeau à venir vous rencontrer. Vous seriez sur des stands. Je ne sais pas si les dates qui sont sur le site sont les bonnes. Le 23 mars à Villebon-sur-Yvette.
Oui, tout à fait. Je fais beaucoup de salons.
Ouais.
Donc je parcours un peu la France et là on est dans la période où ça va reprendre. Donc je vais être à La Rochelle dans 15 jours. Je vais être en région parisienne à la fin du mois de mars. Je vais être aussi en Normandie à la fin du mois de mars. Voilà, Et puis, je fais Vignerons indépendants, donc qui sont des salons assez connus sur la région parisienne ou à Lille. Je me déplace beaucoup.
En tout cas, on peut aller visiter votre site www.celinecote.com et avec une superbe vidéo qui explique tout, en fait.
Oui, c'est ça, ouais, avec la jument notamment, et puis les origines de ma passion, en fait.
Bah écoutez, Céline, on vous remercie beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de temps. Il y a du travail en ce moment dans les vignes, là ou...
Eh bien là, on est encore en train de tailler. Et puis on bénéficie d'un très beau temps depuis une petite semaine. Donc, ça nous permet d'avancer dans de bonnes conditions.
Bah écoutez, je vous souhaite bon courage à vous. Et puis, alors, je ne sais pas si on aura, nous, l'occasion de trouver de l'épineuil rosé dans le sud. Mais c'est vrai que ça donne envie.
Bon.
Évidemment, on le consommera avec modération.
Bien sûr, toujours. Bah,
merci beaucoup. Au revoir.
Bon après-midi. Au revoir.
Voilà, ce Polar Vin Compagnie se termine, consacré à Pascal Chouffaut et à son roman La théorie des ondes paru chez Rouergue Noir. On vous donne rendez-vous le 6 mars prochain au cinéma de Millau pour voir le film Brûle le sang de Akaki Popkadze. Et on se retrouvera fin du mois de mars, le 28 à nouveau, pour Olivier Gallien pour Sève, paru chez Robert Laffont. Mais on se retrouve quand même dans 15 jours pour un Polar Vin et Compagnie ordinaire ou normal ou habituel. Vous nous retrouverez en rediffusion mardi à 16h et évidemment sur les podcasts sur radiolarzac.org.